Chapitre 20. Parce que sa belle-mère le lui avait demandé comme une grâce, et pour ne pas avoir l'air de profiter d'un chagrin pour s'imposer, Jean-Noël s'abstint pendant quelques jours d'aller rue Boissonnade. Au cours de cette période d'effacement, une crainte se glissa en lui, celle que Madame Ettlinger ne devint dans l'avenir plus difficile à approcher. Jusqu'alors, chaque fois qu'elle s'était froissée, qu'il était parti, ou qu'Annie l'avait prié de ne pas revenir, il avait souffert, mais il ne s'était pas inquiété. La venue de Malakoff demeurait le centre. Il suffisait d'y retourner pour retrouver inchangé ce dont il avait été séparé. Maintenant, c'était différent. Madame Ettlinger était libre. Un peu comme le commerçant dont les clients sont de passage, il appréhendait qu'elle ne disparût. Il n'avait plus avec sa belle-mère que des liens de grandes personnes unies par l'amitié, et celle-ci était à la merci d'une dispute, d'un malentendu. Madame Mercier n'était-elle pas revenue rue Laugier? N'avait-elle pas demandé à son fils ce qu'il comptait faire, à présent qu'il allait être riche, et n'avait-il pas répondu par vanité qu'il n'en savait rien? Comme si, effectivement, un changement était sur le point de se produire dans sa vie. Ce ne fut qu'une semaine après l'enterrement de M. Villemur que Jean-Noël se décida à faire une visite à Annie. Cette première entrevue fut d'une très grande cordialité. « Entre, entre !» dit Annie, qui préparait justement le thé, à son beau-fils qui hésitait à s'avancer, ému par un parfum qui, d'un seul coup, lui avait rappelé toute sa jeunesse. Il obéit. Une lampe à pétrole, voilée par un abat-jour japonais, éclairait l'atelier où des foyers de vie étaient disséminés partout. Là, c'était une bouillotte d'où s'échappait de la vapeur. Là, une palette chargée de couleurs fraîches. Là encore, des tasses, un paquet de sucre, des fleurs. Il reconnut certains meubles, le paravent, et sur le bureau, le porte-plume d'ivoire dont il n'avait jamais eu le droit de se servir. « Est-ce que tu prends beaucoup de lait ?» demanda Madame Ettlinger. Elle semblait rajeunie, comme si la visite de son beau-fils la reportait au temps de Jean Melchior. Elle était pourtant désireuse de montrer qu'elle n'avait pas changé et que, bien qu'elle fût demeurée des années dans sa famille, elle avait conservé cet amour de l'art et de la vie intérieure auquel elle attachait tant de prix. Dans cet atelier perdu, ignoré de tous, elle était vraiment elle-même et Jean-Noël sentait qu'elle lui faisait un grand honneur en l'acceptant dans son intimité. Un mois s'écoula. Dès que Jean-Noël était libre, il courait rue Boissonnade. Il avait remarqué qu'Annie ne lui parlait plus comme avant, qu'elle ne lui donnait plus ses conseils impossibles à suivre. Elle qui avait été si discrète quand il s'agissait d'elle-même, elle l'entretenait à présent de sa peinture, de ses aspirations, comme si, depuis qu'elle n'habitait plus dans sa famille, elle était devenue une sorte de femme d'action mêlée au mouvement artistique. Il n'y avait plus de différence entre Jean-Noël et elle. Tous deux, chacun dans sa sphère, tendaient vers quelque chose. Mais un soir, en rentrant rue Laugier, Madame Mourier accueillit Jean-Noël avec colère. « Il paraît que tu veux divorcer, cria-t-elle. Tu me le cachais soigneusement, hypocrite. Mais cela ne se passera pas comme tu le crois. Je ne t'ai pas sacrifié les plus belles années de ma vie pour que tu me quittes aujourd'hui. J'aurais connu les mauvais jours et les beaux seraient pour une autre. Je comprends maintenant pourquoi tu ne me parles plus de ta belle-mère. » À la suite de la démarche que Jean-Noël avait faite avec Mademoiselle Wurzel à Saint-Cloud, Marguerite, sur l'insistance de ses amis, avait été voir un certain Monsieur Large, dont l'agence de location s'était peu à peu transformée en cabinet juridique. Elle lui avait exposé sa situation, puis lui avait relaté la visite de son mari et d'Odile, ce qui avait fait dire à cet homme d'affaires « Eh bien, il ne se gêne pas, votre mari !» Le premier conseil de Monsieur Large fut celui-ci. « Surtout, ne bougez pas !» Mais lorsqu'après avoir écrit cette lettre, où elle reprochait à son mari de l'avoir fait attendre inutilement, elle apprit par le journal la mort de M. Villemur, un rapport entre cette mort et le désir de Jean-Noël de divorcer lui apparut nettement. Il y avait sans doute longtemps que M. Villemur était malade. La hâte de Jean-Noël s'expliquait à présent. Il aurait voulu recouvrer sa liberté avant la mort de M. Villemur. S'il n'était pas venu comme il l'avait annoncé, c'est qu'il avait été déjà trop tard. Ah, comme elle avait bien fait de ne pas se laisser séduire par Mademoiselle Wurzel, une complice sans aucun doute. Le coup avait été bien monté. En éliminant la femme avant la mort de M. Villemur, on avait pensé qu'on ferait une bonne affaire. Malheureusement, celui-ci n'avait pas voulu attendre. Il n'avait pas voulu retarder le moment qu'il avait choisi pour quitter ce monde. Marguerite s'était rendue aussitôt chez M. Large pour le mettre au courant de ce fait nouveau. « Évidemment, observa-t-il quand sa cliente eut terminé, ce que vous dites est très possible. Mais il n'y aurait rien d'étonnant à ce que votre mari veuille réellement se remarier. Dans ce cas, il faudrait prendre nos précautions et savoir le plus tôt possible ce que nous pourrions exiger comme pension. Pour cela, le mieux serait que je fasse faire une petite enquête à Paris. Vous m'avez dit, je crois, que votre mari était clerc chez Maître Préfil. Ce notaire n'est pas un de mes amis, mais je trouverai un moyen de le voir. » Ce moyen consistait simplement à se rendre à l'étude de la rue de Clichy. Sans se nommer, M. Large interrogea un des clercs, dont il n'obtint d'ailleurs aucun des renseignements qu'il désirait. Aussitôt après le départ du mystérieux visiteur, ce clerc alla raconter à son patron ce qui s'était passé. Depuis la mort de M. Villemur, la sympathie de Maître Préfil pour Jean-Noël s'était atténuée. Nous avons dit que l'amitié jouait un grand rôle dans sa vie. Tant qu'il avait eu le sentiment de rendre service à un jeune homme momentanément en froid avec sa famille, il n'avait jamais fait la plus petite observation à Jean-Noël. Mais à la mort de M. Villemur, il avait eu l'impression que son protégé, qui croyait sans doute n'avoir plus besoin de personne, le traitait par-dessous la jambe pour se servir de sa propre expression. Aussi, à la première entrevue qu'il eut avec Mme Mourier, ne put-il s'empêcher de faire allusion à l'inconstance de Jean-Noël. Celui-ci avait dû faire des siennes ailleurs. N'était-on pas venu dernièrement demander des renseignements sur lui ? Madame Mourier fut tellement bouleversée qu'elle demanda à interroger elle-même le clerc. Elle apprit ainsi que l'inconnu qui s'était présenté quelques jours avant était chargé de défendre les intérêts de Marguerite. En cette qualité, il s'était étonné que Jean-Noël se fût rendu chez sa femme légitime avec une maîtresse. « Mais qui t'a raconté ces histoires ?» demanda Jean-Noël. « On me renseigne !» répondit Madame Mourier, comme si elle était entourée d'une foule de gens qui ne cherchaient qu'à lui rendre des services de ce genre. Une scène éclata entre les deux amants, l'autre voulant absolument savoir qui était la femme qui avait accompagné Jean-Noël à Saint-Cloud. « J'ai deviné !» s'écria Madame Mourier, qui ressemblait par certains côtés à Marguerite. « Il y a tout à parier que c'est une de ces filles chez qui tu cours chaque soir. Elles en sont bien capables. » Jean-Noël, s'il n'avait jamais parlé des Wurzel, n'en avait pas moins dit, pour se poser, qu'il fréquentait des amis de Villemur, et de l'unique famille Wurzel, il en avait fait 10, qu'il voyait, prétendait-il, à tour de rôle. Finalement, excédé par les cris de Madame Mourier, et effrayé par la menace qu'elle lui fit d'aller interroger Marguerite, il lui avoua que c'était Mademoiselle Wurzel. C'était pour lui rendre service que celle-ci l'avait accompagnée à Saint-Cloud. Ne se moquait-il pas, après tout, de ce qui pouvait arriver? La seule personne à qui il tenait, c'était Annie, et dans son atelier que personne ne connaissait, elle était bien en sûreté. Le lendemain, Madame Mourier se rendit boulevard du Montparnasse. Elle était très calme. Elle avait reçu une autre éducation que Madame Mercier, qu'Émile, que Marguerite. Sa démarche n'avait rien de commun avec celle que ces personnes avaient l'habitude de faire. Elle ne voulait que venir en aide à une jeune fille qui ignorait sans doute que Jean-Noël avait une liaison. Mais Odile était sortie. Madame Mourier s'apprêtait à se retirer, non sans avoir refusé de se faire connaître, lorsque M. Wurzel, intrigué, s'approcha. Il lui demanda ce qu'elle avait à dire de si important à sa fille. Laure ne se laissa pas fléchir. Elle consentit cependant à donner son nom, puis elle partit en disant que ce qu'elle avait à communiquer à Mademoiselle Wurzel était sans intérêt. Car bien qu'une visite à des gens qu'elle ne connaissait pas ne lui fît pas peur, elle n'en avait pas moins la prétention d'être franche et de ne jamais faire de tort à qui que ce fût. Peu après, lorsqu'Odile apprit par son père qu'une dame du nom de Mourier l'avait demandé, elle ne douta plus que Jean-Noël n'eût rompu avec sa maîtresse et elle en éprouva une grande joie. Le soir, Laure se garda bien de parler à Jean-Noël de sa démarche, quoiqu'elle fût pleine de fierté d'être repartie comme elle était venue. Ils dînèrent comme si rien ne s'était passé. Jean-Noël avait vu Annie sur la fin de l'après-midi. Elle avait été avec lui comme une camarade. Il se souvenait bien de la scène que lui avait faite la veille Madame Mourier, mais comme celle-ci semblait l'avoir oubliée, il n'y attachait plus d'importance. Ce contentement, cette indifférence, ne tardèrent pas à mettre Laure hors d'elle. « J'ai vu ton amie Odile cet après-midi, » dit-elle brusquement. « Tu ne m'avais pas signalé qu'elle était ta maîtresse. Alors, pendant que je te suis fidèle, tu me trompes. » Jean-Noël savait que Madame Mourier n'avait aucun scrupule à mentir et que, pour se donner des airs de grande courtisane, elle aimait à prêcher le faux pour savoir le vrai. Certains détails prouvaient, en effet, qu'elle ne disait pas la vérité. Mais soudain, elle ajouta « Et j'ai parlé également au père de cette demoiselle. J'aurais voulu que tu fusses là. Si tu avais vu les yeux qu'il m'a faits, ils ne sont déjà pas beaux de leur nature, avec leurs cils blonds et leurs petites taches rouges, mais quand ils vous regardent méchamment, c'est à se sauver immédiatement. » Jean-Noël perdit contenance. Comment Laure aurait-elle appris ces particularités si elle n'avait pas vu M. Wurzel? Il apparut à Jean-Noël qu'il ne lui restait plus qu'à paraître atterré, Laure s'acharnant d'autant plus sur lui qu'il semblait heureux. Il lui dit que ce qu'elle avait fait lui causait beaucoup de peine, qu'il avait déjà assez de soucis sans cela, qu'il n'y avait rien entre Mademoiselle Wurzel et lui. Lorsqu'il retourna à l'étude, il y trouva un mot d'Odile lui demandant de venir déjeuner. Il eut la surprise d'être accueilli très amablement par M. Wurzel. Lorsque la jeune fille fut seule avec lui, elle lui demanda s'il était au courant de la visite de Madame Mourier. « Non, » répondit-il. Elle lui raconta ce qui s'était passé. Elle était convaincue que Jean-Noël avait rompu et que Laure, dans son dépit, cherchait à faire un scandale. Il se garda bien de la détromper et feignit de redouter les conséquences de cette prétendue rupture. « Il vaut mieux, dit-il, que nous ne nous voyions pas pendant quelque temps. » Car depuis que Madame Ettlinger s'était séparée de sa famille, Jean-Noël, qui vivait dans l'attente d'un événement extraordinaire, veillait à maintenir une certaine distance entre son entourage et lui, de manière à pouvoir répondre immédiatement aux premiers signes qui lui seraient faits.